Bien, bonsoir Christophe Onodivion. Nous sommes heureux de vous voir à Bordeaux pour parler de ce gros livre qui s'appelle Plongée. Alors attendez, il faut d'abord, il y a l'opération chapeau dans un premier temps, voilà.
Opération chapeau.
Oui, il faut qu'une dame enlève son chapeau, mais ouais. C'est comme à la messe, on voit pas.
C'est pas Amélie Nothomb, non. Voilà.
Ce roman, puisqu'il y a Jean d'Ormesson là, ce roman a reçu le grand prix du roman de l'Académie française il y a une quinzaine de jours.
Le 24 octobre.
Ouais. 4 octobre. Et ça vous est agréable, je suppose. Et est-ce que vous savez que quand les académiciens attribuent leur grand prix du roman, assez souvent, presque toujours, ça veut dire qu'ensuite, ben, il faudra vous faire un habit vert. Vous y êtes prêts ou...
Écoutez, chaque chose en son temps. Non, mais j'étais très, très heureux. D'ailleurs, vous voyez, je me souviens de la date.
Oui.
24 octobre, un jeudi. Non, j'étais très heureux parce que certains d'entre eux, en fait, c'est... académiciens ont été des, non pas mes professeurs, enfin j'ai pas été en classe avec eux, mais certains d'entre eux m'ont formé intellectuellement. Je vais pas les citer parce que je risque d'en oublier et de les vexer, mais j'avais lu leurs livres quand j'étais étudiant, quand j'étais en hypocagne, en cagne, et donc m'être honoré par eux, c'était vraiment quelque chose qui me faisait plaisir. En plus, Plongée est un livre où la culture, l'idée de culture, d'héritage, de transmission est absolument centrale.
Centrale.
Et il y avait quelque chose, j'étais au milieu des... Bon, ben, j'étais à la fin, oui, Quête Conti... dans ces salles, avec toutes ces statues, ces tentures, avec les académiciens. Et j'avais vraiment l'impression d'être, oui, dans un temple culturel, veillé par les statues antiques qui me regardaient. Et c'était très, très émouvant. C'est vraiment un prix qui me touche énormément. Voilà, il est beau, ce prix.
Alors vous verrez, vous serez infiniment plus ému le jour où vous serez reçu, où il y aura la garde républicaine, les tambours, les sabres au clair, et vous apparaîtrez en haut du grand escalier.
Nous verrons.
Puisque vous parlez de vos maîtres, et puisqu'il y a Jean Do là en photo, François-Olivier Gisbert, il faut savoir... peut-être que les auditeurs ne le savent pas, que vous êtes journaliste, que vous êtes directeur adjoint de la rédaction du Point et que vous dirigez également les pages culture dans ce magazine. François-Olivier Gisbert, qui est le patron du Point, a fait un article ou a ressorti un article. Je sais
pas, non, il l'a fait.
Il l'a fait au moment de. Oui, non, mais au moment du Grand Prix.
Ouais.
Enfin, il a fait un article en tout cas. Et alors justement, il dit qu'il vous rapproche de Fitzgerald, Jean d'Ormesson, Beck BD, c'est un peu, hein, et
c'est cause de la barbe.
Et il m'en manque un,
j'étais plus. Sagan.
Et François Sagan. Voilà. Alors, je veux pas dire du mal du directeur du Point devant le directeur adjoint de la rédaction, mais je ne vois aucun rapport avec, en tout cas ce qui concerne ce livre, avec d'Ormesson, avec Fitzgerald, avec Sagan et avec Beck BD, si ce n'est qu'on y boit des cocktails et qu'il y a en effet des people, des gens un peu friqués et dorés. Et ça.
Dans Plongée.
Oui.
Oui.
La question est, on y boit, on y assiste à des cocktails. Est-ce que dans ces écrivains, Fitzgerald, d'Ormesson, Sagan et Beck BD, certains vous ont influencé et vous considérez certains d'entre eux comme des maîtres, puisque vous avez parlé de maîtres tout à l'heure.
Sur les influences, c'est toujours très, très compliqué. Enfin, c'est compliqué de vous répondre, parce qu'on ne sait pas bien qui vous influence. En revanche, ce que je peux dire, c'est que... chez Jean d'Ormesson, il y a un goût de la phrase qui claque, surtout dans ses romans de jeunesse. Il y avait une phrase coup de fouet qui me plaît beaucoup. Chez Sagan, mais pareil, hein, évidemment, il y a une urgence qu'on sent. Chez Frédéric Beck BD, en fait, au fond, ils se ressemblent assez. Hein, on pourrait dire que Beck BD est un fils barbu et chevelu de Jean d'Ormesson.
Avec
Sagan, il pourrait être l'enfant des deux. Et Fitzgerald, alors, Fitzgerald est l'un de mes... Voilà, enfin, pas tant Gatsby. J'aime beaucoup Gatsby, mais Tendre et la nuit, je trouve que c'est un roman qui, à chaque fois, me laisse pantelant d'admiration. Alors, on dit, il y a moins, il y a une, il y a un côté toxique qu'il n'y a pas dans Plongée. Le côté cocktail, oui, c'est vrai que l'heure du cocktail est pour moi toujours l'heure bénie. C'est vrai que c'est. Je pense pas du tout que la vie soit un cocktail, en tout cas pour les personnages de Plongée non plus. Mais cette heure où l'alcool vous redonne un petit coup de fouet et vous permet un peu de faire le point sur le chemin parcouru et le chemin qui reste à parcourir et vous réchauffe un peu l'âme. C'est vrai que je parle beaucoup de l'heure du cocktail, mais ce sont des cocktails qui peuvent être un verre de vin dans un vieux bar espagnol à Majorque ou au bord d'une petite plage italienne du sud des Pouilles, par exemple, ou de la côte amalfitaine. L'alcool, oui, il y a un rapport entre la plongée sous-marine et l'alcool. On va chercher quelque chose de fort aussi quand on plonge. Fitzgerald est un, je ne vais pas dire que c'est un modèle, c'est un auteur que je révère vraiment au plus haut point. Mais enfin, Franz Olivier Gisbert, c'est pas tellement trompé parce que ce sont des auteurs que j'aime. Après, que je m'en sente proche littéralement, je ne sais pas. C'est pas à moi de le dire.
Mais moi, je ne dis que pas tellement. Voilà.
J'aime beaucoup Maupassant aussi. Ah oui. Non, une chose qui m'a touché dans son article, c'est un mot qu'il a inventé. Qui est le mot de contemporancien, mais peut-être qu'on va en parler plus tard. C'est-à-dire que j'ai toujours...
Oui, oui.
Bon, les textes antiques, la culture, je parlais d'héritage tout à l'heure. Bon, César part avec l'Iliade reconnaître le corps de la femme qu'il a aimée. Le petit garçon s'appelle Hector. Je parle énormément des mythes, de la mythologie pour moi. Et d'ailleurs, je regrette beaucoup d'ailleurs que le grec et le latin soient en sorte de... Oui, la mort est annoncée pour le grec et le latin. C'est très dommage, parce que quand j'étais au collège et que j'ai eu la chance de faire du grec, ça m'a ouvert vraiment les portes. À la fois, ça m'a donné de la rigueur, mais ça m'a ouvert les portes de la fiction, de la littérature, des mythes, voilà, c'est toutes ces circées, ces magiciennes, de la féminité aussi, de l'amour, de l'étonnement, de l'enthousiasme. Et en même temps, je suis très, puisque vous l'avez rappelé, je suis journaliste, alors il se trouve que j'enseignais en fait le français, j'ai publié ce premier roman, et ce premier roman m'a fait dériver vers ce métier qu'est le journalisme, que j'adore, parce qu'au fond, puisque vous parliez de maître, je me suis aperçu que les écrivains que j'aimais, c'est-à-dire de Maupassant à Tom Wolfe, sont écrivains et journalistes. J'aime beaucoup la solitude totale que j'ai eu l'occasion de vivre sur le mont Athos, par exemple, dans les cellules de moines orthodoxes, quand je suis allé là-bas pour aller voir et puis peut-être me dire que j'écrirai un roman là-dessus. Et j'aime beaucoup l'électricité du quotidien, de l'actualité, l'espèce d'énergie. Et je suis très curieux, donc je n'ai jamais voulu être que écrivain, que journaliste. Quand je suis pas dans l'écriture d'un roman, je suis très malheureux. Et c'est comme si j'étais désaxé, je suis un peu dévié de. Et j'aime assez l'idée de vivre sur deux, à la fois en rapport avec les anciens, dans une forme d'éternité et de continuité. Je pense qu'on est tous le produit d'une histoire, d'un héritage. Après, je suis pas du tout passéiste. Je pense qu'il faut faire quelque chose de cet héritage. Mais je pense comme disait Cicéron, si tu ne sais pas d'où tu viens, tu seras toujours un enfant. C'est très bien d'être un enfant, mais un enfant, ce n'est pas un être autonome. C'est quelqu'un qui ne peut pas savoir où il va. Et donc, l'idée d'être branché sur le passé, sur le terreau antique, et puis d'être tourné vers l'avenir. Et d'ailleurs, le premier texte que j'ai publié, même avant Désagrégé, c'était sous forme numérique, en fait, en 1995. À l'époque, on ne parlait pas de blog, hein, ça n'existait pas encore, mais... et qui était une sorte de récit intime d'un garçon de 20 ans, de 20 à 22 ans, qui était moi. Et je racontais vraiment au plus près de ce qui m'arrivait, de façon presque éphémère, quoi. Donc, je ne sais plus très bien quelle était votre question. Mais contemporancien, voilà, c'est-à-dire essayer de vivre... je sais que je suis immortel, mais d'ailleurs, on l'est tous, mais on essaie de vivre comme si on était immortel aussi. Hein. Heureusement, on ne pense pas à la mort toujours. Je vais m'arrêter là, je vais vous laisser parler parce que je suis très bavard.
Mais vous êtes extrêmement bavard, c'est intéressant. Parce que de qui parliez-vous là pendant ces quelques minutes? Vous avez dit je m'intéresse beaucoup à l'Antiquité, Oui, le narrateur aussi. Mmh. J'ai un fils qui s'appelle Hector. Oui, le narrateur aussi. J'aime beaucoup la côte amalfitaine et Positano. Oui, le narrateur aussi. Les Pouilles, oui, aussi. Et il est journaliste, alors pas au Point, mais dans un magazine qui s'appelle L'Entreprise. Mmh. Et il a fait un certain nombre de reportages qui l'ont beaucoup marqué dans sa vie. On en dira peut-être un mot sur le tsunami en Thaïlande ou sur le Liban. Alors, bon, vous voyez venir cette question, hein, elle est grosse comme une maison. Ça s'appelle roman, mais jusqu'à quel point est-ce un roman ? Quel est le personnage principal, le narrateur, n'est-ce pas ? Est-il Christophe Onodibio ? Comment ? Évidemment, il y a une telle parenté. Le lecteur qui a entendu parler de vous, qui vous connaît un peu, qui a lu vos livres précédents, bon, se dit oui, bah, c'est lui, c'est lui. Et puis il y a des moments où on est quand même, semble-t-il, dans la fiction. Alors oui. comment ça se joue, ça
C'est un roman, oui. C'est de la fiction. Je crois beaucoup au roman. On dit souvent que le roman est mort. Je pense que le roman, encore, il en a sous le pied, comme on dit dans l'automobile. C'est-à-dire que c'est vraiment une forme qui permet de tout faire, quoi. Même de mettre des photos, c'est un roman qui, c'est un genre qui, à mon avis, a encore vraiment de longs jours devant lui. Alors maintenant, bon, on m'a posé cette question-là. Parfois, on utilise le terme
autofiction.
Heureusement, voilà, vous m'avez fait la grâce. J'ai toujours détesté ce terme. Je me suis jamais reconnu dans ce terme, puisque autofiction, c'est quoi ? C'est faire de la fiction sur soi-même ? C'est anti-fiction ? Non. Moi, je crois beaucoup à un autre de mes maîtres, Gustave Flaubert, normand comme moi, qui disait « Madame Bovary, c'est moi ». Quand vous voyez Flaubert, moustachu, colosse normand, il n'a rien à voir avec une jeune femme rêveuse de la bourgeoisie normande, romantique. Il était très romantique, Flaubert. Mais voilà, il se trouve qu'on met dans ces personnages tout de soi, pourvu qu'on essaie de un peu d'être comme disait Léris, de considérer la littérature comme une forme de tauromachie, c'est-à-dire qu'on
affronte la corne du taureau.
Et exactement, la corne du taureau, le danger. J'ai mis énormément de moi dans ce livre, c'est une fiction. Mais il y a une chose que je ne sais pas faire, que je ne veux pas faire. C'est pas du tout un jugement moral, mais quand je décris en fait un paysage, en fait, je ne veux pas mentir dans les romans. Et quand je décris un paysage, quand je décris un alcool, quand je décris une robe, quand je décris le bruit des galets à Étretat, la côte amalfitaine, la petite chambre où les amants, la petite chambre de pension italienne qui n'est pas climatisée, et donc quand les amants ont fait l'amour pour se rafraîchir et s'endormir, ils se couchent à même les tomates plus fraîches. Le balcon, la fenêtre grande ouverte sur le balcon et sur la mer. C'est évidemment des lieux que j'ai connus. Alors en fait, c'est double. C'est-à-dire que je pourrais mentir, je pourrais inventer des lieux, mais ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas parce que j'aime transmettre les choses et j'aime transmettre les belles choses ou les choses atroces. Hein. Vous parliez du tsunami, on en parlera tout à l'heure. C'est autre chose. Mais transmettre les choses qui m'ont ému. Quand je parle d'œuvres d'art, ce sont des œuvres que j'ai vues. Elles m'ont plu, j'ai envie d'expliquer pourquoi. Et c'est aussi, dans le roman, ça a une utilité parce que les deux amants sont conscients que toute chose a une fin. Et donc, ils font, elle est photographe, lui est journaliste, il a écrit peut-être un livre, on ne le sait pas avant. Et ils écrivent, ils ont un projet, en fait, tous les deux, du livre, le livre de ce qui va disparaître. Le livre de ce qui va disparaître, c'est ce petit café espagnol dont je parlais à Poyensa, à Majorque. C'est, au fond, c'est quoi ce qui va disparaître ? C'est tous leurs souvenirs amoureux. Il y a, pour moi, dans l'écriture du roman, un archivage. La vie est très rapide, ça passe très vite. Et le roman me permet, c'est pour ça, quand, dans mon rythme de journaliste effréné, il y a eu ce moment d'écriture. J'ai mis énormément de temps à l'écrire, j'ai cru que j'allais jamais le terminer, ce livre. Il a fallu un moment que je me dise, il faut que tu te réappartiennes et que je définisse un cadre. C'était de 5h du matin à 7h30 du matin, quand la ville dormait, la maison dormait, l'enfant dormait. Et où je, à travers Paz et César et leur passion, je me réappropriais tous ces moments, tous ces paysages qui ont été pour moi ou non des paysages amoureux, et les faire vivre y placer mes personnages me permettait aussi de, voilà, d'archiver ces moments de ma vie qui sont aussi des moments de la vie de Paz et César. Il y a quelqu'un que j'aime beaucoup qui s'appelle Orhan Pamuk, qui est prix Nobel de littérature turc, qui m'avait expliqué qu'il a fait à Istanbul le musée de l'innocence d'après l'un de ses livres. Alors en fait, c'est très très beau puisque c'est évidemment... qu'est-ce qui reste d'une vie ? Qu'est-ce qui reste d'un amour ? Il reste des objets, il reste des moments, il reste des robes, il reste la lueur d'un bijou sur une oreille. Il reste ça, en fait, d'une histoire d'amour. Et Orhan Pamuk m'avait expliqué que lui, c'était bien pire que moi. C'est-à-dire que moi, je pense à la robe de Paz. Je la vois, je l'ai peut-être touchée. Lui, il fallait qu'il aille acheter... à Istanbul, chez les antiquaires d'Istanbul, puisque ça se passait dans les années 50, il me semble, il fallait qu'il aille trouver la robe, sinon il ne pouvait pas décrire l'héroïne. Et les vertus du roman et la beauté des romans, du roman de ce genre, c'est que, voilà, comme lui, moi j'ai besoin de toucher, d'imaginer la robe de Paz. En fait, je la vois, je n'ai pas besoin de l'imaginer parce que je l'ai eue sous les yeux, cette robe. Et cette recréation que permet le roman, cette sensualité que permet le roman, ce côté très physique, très sensuel que permettent les mots. On pense toujours que les mots, c'est froid, ou on peut avoir cette impression-là. Mais avec les mots, vous pouvez faire passer la texture d'un vêtement, l'épaisseur d'un vin. Bon, on n'a pas de vin, là, je dis l'épaisseur d'un vin, la limpidité d'un verre. Et donc, il y a ça. Alors, est-ce que César, c'est moi ? Non, César, c'est pas moi. César, c'est quelqu'un qui a perdu la femme qu'il aimait, qui l'a laissée avec ce petit garçon et qui doit aller reconnaître le corps de cette femme. Ça ne m'est pas arrivé, Dieu merci. Maintenant, César, évidemment, mais comme Paz, il y a plein de choses de moi que j'ai mises dans Paz. Et qui sait... peut-être que je rêverais d'être Paz et d'avoir comme elle, d'être capable comme elle d'aller jusqu'au bout de sa passion, de son goût pour l'absolu, de tout quitter pour aller vivre selon ses propres canons, à elle, selon ce qu'elle a décidé. Donc, voilà, Madame Bovary, c'est moi, et bien Paz et César, c'est moi. Après, autofiction, je crois que c'est un terme qui n'est pas du tout, d'ailleurs qui était inventé tardivement, et c'est un terme qui n'est pas du tout, qui n'est pas du tout pertinent. Toute la littérature romantique, qu'il s'agisse de poésie ou de roman, sont placées sous le signe de l'intrication entre la propre vie de l'écrivain et aussi ses projections, ses désirs, ses désespoirs, ses ratages. Donc voilà. Est-ce que j'ai bien répondu à votre question ?
Oui, très bien. Très bien.
C'est dur.
Bonne note. Vous repassez par l'agrégation, là. Est-ce que, justement, ce livre a aussi l'ambition, non seulement d'être l'histoire d'un amour et le portrait de deux amants, comme vous venez de le dire à plusieurs reprises, est-ce qu'il a aussi l'ambition d'être le portrait d'une époque ? Est-ce qu'autrement dit, vous parlez de la littérature romantique, est-ce que c'est la confession d'un enfant du siècle ?
Ça, c'est un modèle littéraire absolument Musset. Musset, c'est un dieu pour moi, parce que voilà. Une époque, oui, je voulais plonger, c'est la plongée dans une femme, dans un couple, dans une époque, dans l'Europe. Je voulais que l'Europe soit la carte de tendre de ce couple très contemporain, très contemporancien aussi pour César, avec cette dimension, voilà. Et oui, c'est la plongée dans une époque. Quand je dis que la seule chose qui... alors le problème, c'est que j'ai du mal à retrouver les phrases que j'écris, mais que la seule chose non interrompue dans cette époque, c'est l'interruption permanente. C'est-à-dire que ce qui est constant, c'est le fait de se voir couper la parole par une sonnerie de portable, un mail, un rappel à l'ordre, etc. On est dans une époque... César souffre et passe encore plus de cette sensation qu'on est en train de glisser d'un monde à l'autre, qu'on ne sait pas très bien de quoi sera fait l'avenir. Et c'est pour ça... Puisque vous parlez... Parce que je voudrais revenir aussi sur tout à l'heure, quand vous parliez de Fitzgerald et des cocktails et des people et de... Bon, Paz, elle est artiste. Elle est artiste, elle est photographe. Il y allait aussi de la crédibilité du livre. Comme elle est artiste, elle rencontre... Elle est dans un milieu d'artistes. Donc elle rencontre des artistes. Et comme c'est l'époque, ce sont des artistes qui existent aujourd'hui. Et c'est vrai que ça m'amusait énormément de la faire se confronter à certains artistes existants et de les voir se croiser à Venise. Et ça, ça participe aussi du projet de faire un roman, oui, un roman contemporain, un roman, mais qui n'est pas un roman... Il y a de l'urgence. Le problème, c'est qu'en fait, voilà, vos questions elles vont me faire, parce que je ne les épuise jamais. Mais ce roman-là, vous finirez, après, je vais essayer de satisfaire. J'ai du mal à répondre aux questions sur un roman, mais... ce roman-là, je l'ai écrit à un moment de ma vie où il y a eu la naissance d'un enfant. Donc je reviens là, vous allez dire, César, c'est encore Christophe.
Oui,
la naissance d'un enfant et qui, curieusement, a mis devant moi l'idée de événements très joyeux, etc. Bon, l'exergue du livre, je ne mourrai pas, j'ai un fils. Je ne mourrai pas, j'ai une fille. Hein, mais le proverbe dit, j'ai un fils, j'y peux rien. C'est pareil, mais l'idée de continuité de quelqu'un qui va vous... continuer après vous, prolonger votre existence en traçant la sienne, mais qui sera peut-être aussi conditionné, guidé par certaines belles choses que vous lui aurez enseignées. Et curieusement, ça a mis aussi ma propre mort devant moi en me disant, ce petit garçon, j'ai envie de vivre le plus longtemps avec lui, j'ai envie de le voir grandir, j'ai envie de lui apprendre plein de choses, d'être émerveillé aussi par lui, d'apprendre aussi beaucoup de choses de lui. Mais qu'est-ce qui se passe s'il m'arrive quelque chose ? Bien sûr, il y a les autres livres. Mais je voudrais écrire une histoire qu'il lira et qui lui rendra compte de cette époque dans laquelle il est né, mais et qui aussi lui transmettra tout ce que j'ai aimé, tout ce qui m'a aussi indigné, et qui lui enseignera quelques leçons que je pense cruciales, comme justement l'importance du monde ancien, l'importance du corps, qui était très importante aussi d'ailleurs chez les Grecs. N'oublie pas le corps, lui dit-il. Et puis surtout, n'oublie pas l'essentiel. La vie passe très vite. Essaie de savoir ce qui pour toi compte vraiment et vis une vie selon cette ligne-là. Et donc c'est un roman, mais un roman qui contient, et un roman d'amour, parce que pour moi c'est la vertu, d'ailleurs même la valeur cardinal aujourd'hui, dans un monde où il est de plus en plus difficile d'aimer, parce que l'interruption, la civilisation de désir permanent conspire contre l'amour, contre la patience que demande l'amour, contre l'écoute à l'autre que demande l'amour. Et donc voilà, un roman qui soit comme une peut-être bouteille à la mer pour ce petit garçon qui lira ou qui ne lira pas. Dans 10, 12, 15 ans ou 20 ans. Et donc, il y a ça. Donc, une urgence à parler de l'époque, une urgence aussi à l'écrire, même si ça m'a pris 5 ans, en me disant, mais vraiment, c'est ça, il faut que tu t'arrimes à ça. Essaie de te couler dans le rythme un peu éternel du roman et pas uniquement la superficialité, le côté éphémère de l'actualité, qui est aussi mon métier. Donc il y a ça, le portrait d'une époque avec ses travers et avec une femme qui, elle, veut quitter l'époque. Et ce n'est pas un hasard, le requin, c'est l'animal, c'est le primitif. C'est ce qui a résisté à toutes les époques. C'est un animal qui est né il y a 450 millions d'années, qui n'a pas évolué. Et c'est un animal qui représente la peur depuis l'Otréamon jusqu'à Spielberg. Et comme c'est un roman anti-peur, il fallait aussi que puisqu'on apprivoise le requin, que le requin soit là aussi comme signe du primitif, de l'anti-peur et comme signe de ce qui reste, de ce qui perdure, quoi. Pas c'est quelqu'un qui quitte l'époque, qui est étriqué pour elle, pour aller dans un rythme plus ample. Et puis c'est ça aussi, quand on est sous l'eau, le temps s'allonge, donc il y a un...
On va revenir.
Je m'égare dans mes propres méandres.
Mais je suis là pour vous ramener. Et sur la terre
voilà.
Ferme. Sur la terre ferme.
Vous êtes ma bouteille d'oxygène.
Oui, bien sûr. Justement, avant qu'on parle du requin, bien sûr qu'on va parler des requins. Mais avant de parler des requins, je voudrais revenir à cette idée. Oui, vous voulez. Le narrateur, César, veut léguer, n'est-ce pas, une certaine. Il veut laisser un héritage à son fils. Et, et cet héritage, c'est notamment une certaine peinture du monde que l'enfant n'aura pas connu ou il était trop...
J'espère qu'il le connaîtra encore.
Oui.
J'espère qu'il y aura encore ces jolis lieux.
Il y a quand même, justement, voilà, c'est ça. Et, César et Passe, ils veulent écrire le livre des choses qui vont disparaître. le livre de ce qui va disparaître. Et vous en avez donné quelques exemples, et il y en a bien sûr davantage dans le livre. Et ce sont des adresses sur la côte amalfitaine, ce sont des endroits magnifiques.
Sauvages aussi, parfois.
Sauvages, ouais. Etc. Mais c'est surtout quand même un peu des choses élégantes qu'on trouve dans les recueils de voyages un peu chicos, etc. Or, oui.
Vous permettrez de ne pas être d'accord avec vous.
Oui, aussi. Non. Ouais. Et alors, par ailleurs, et là, vous l'avez laissé entendre. Il est quand même extraordinairement... Elle lui dit, passe à un certain moment, tu es noir dans ta tête. Il est extraordinairement pessimiste, ou enfin pessimiste, je ne sais pas, en tout cas, ou lucide, sur l'état actuel, n'est-ce pas, du monde, et particulièrement de l'Europe. Voilà. Et les choses, le livre de ce qui va disparaître, c'est par exemple... l'Europe, qui à ses yeux est devenue une espèce de conservatoire du passé, une espèce de musée où tout est figé, où tout est momifié. Bon, alors ça, c'est autre chose que quelques adresses pour Vogue, et, ou quelques endroits où l'on a été heureux. Quelques endroits où l'on a été heureux. C'est autre chose. Si la civilisation européenne est vraiment voué à disparaître, et ce qu'il a l'air de penser, n'est-ce pas ? Ce qu'il a l'air de penser. Et ce qu'elle pense peut-être passe, puisqu'elle veut s'en aller tout à fait ailleurs.
Oui, bon, les personnages. César. César a connu le monde, a voyagé, a connu certaines beautés du monde, certaines atrocités du monde. On parlera peut-être du Liban tout à l'heure. Oui. C'est pas quelqu'un qui a peur. Quelqu'un qui, justement, l'a prouvé, d'ailleurs, par la vie qu'il a menée. Il est plus âgé que Paz, qui a 25 ans, lui en a à peu près 40. Paz est quelqu'un donc, qui est artiste, qui est une photographe, qui veut découvrir le monde. Et quand ces deux personnages entrent en collision amoureuse, évidemment, Paz se sent... Elle étouffe en Europe. Elle étouffe en Europe, elle veut absolument quitter l'Europe. César a décidé, à cause du Liban, du tsunami, de ce qu'il a vu du monde, qu'aujourd'hui, lui, c'est un amoureux fou de l'Europe. Boîte à trésors, des beautés, je ne sais plus ce que je dis exactement, mais pour lui, voilà, dans cette Europe contemporaine, il y a suffisamment d'endroits, de musées. C'est quelqu'un qui aime les musées. Alors ça, c'est quelque chose que je partage avec lui. Je ne suis pas aussi radical que lui. Mais c'est-à-dire que quand il est dans un musée, tout de suite, il se sent reconnecté, apaisé par justement cette force. Dès qu'il voit une statue, la femme piquée par un serpent de Clésinger, dont je parle, qui est une statue qui est à l'entrée du musée d'Orsay à droite, qui est en fait une. Alors ça, on va en dire deux mots quand même, parce qu'elle est. C'est, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, mais c'est une femme donc qui est à échelle humaine. Qui date de la fin du 19e siècle. Et en fait, pour réaliser la sculpture, Clésinger, qui était l'amant de cette femme, l'a moulé, a réalisé un moulage de son corps, in vivo, à tel point qu'il a dû mettre des pailles dans ses narines pour qu'elle puisse respirer. Et c'est une femme qui, à l'époque, a beaucoup intrigué parce que le modèle... C'était une femme qui s'appelait Apollonie Sabatier, que Baudelaire, dans Les Fleurs du Mal, appelle la présidente, et qui faisait rêver tous les artistes de l'époque, était très belle. Etc. Et cette femme-là, qui est maintenant donc une statue, qu'on appelle la femme piquée par un serpent, on voit un petit serpent sur son poignet, au fond, comme Cléopâtre, mordu par l'aspic qui va lui donner la mort. C'est une femme qui est totalement... Elle est allongée, elle est cambrée. À l'époque, les critiques d'art disent « Mais c'est pas une femme piquée par un serpent. » Ou alors, il y a... ambiguïté sur le serpent.
Voilà,
mais c'est une femme qui jouit totalement. Et elle est figée dans le marbre, mais c'est une... Les statues, ça fait ça à César, ça me fait ça. C'est qu'on n'est on est pas du tout dans le côté figé, momifié. Il y a énormément de vie, en fait, qui sourd de ces statues. L'hermaphrodite endormi, qui est une autre des... Parce que j'aime bien que les œuvres d'art, il y a quelques œuvres d'art dans le livre, mais qui ne sont pas juste, c'est pas pour raconter... Je veux dire, la vie de ces œuvres d'art, c'est pas un guide culte, c'est que ces œuvres d'art jouent un rôle dans la fiction à un moment, font basculer la fiction. Et l'autre œuvre, c'est l'Hermaphrodite endormie du Louvre, de la collection Borghese. Et bon, l'histoire de l'hermaphrodite, c'est un, voilà, un jeune homme qui rendait fou une nymphe, qui sort de l'eau, qui l'enlace, il se débat, et comme elle a vraiment très envie de lui, il demande à Zeus de les fondre en un seul corps. Et donc, il a, cette statue semble être une femme, et quand on se tourne de l'autre côté, on voit qu'il y a un sexe d'homme. Et à l'époque, une vieille... Enfin, pas à l'époque. Au XIXe siècle, une vieille dame anglaise, très espiègle, qui voyageait, avait dit « Oh ben, très belle cette statue, très émouvante, c'est le seul couple heureux que je connaisse. » Voilà. Et donc, cette vieille Europe, pour César, c'est un coffre à beauté absolument fabuleux. Mais c'est aussi ça, vous avez parlé des adresses de Vogue. Non, il y a certains... Il y a un ou deux, il y a un hôtel à Florence, mais il y a aussi ces petites criques vers Paestum, Positano ou en bas de Ravello, petites criques où ils vont nager. Il y a, je ne le sais plus par cœur, mais il y a un coucher de soleil à Sainte-Adresse, qui est ma région, qui n'est pas du tout une région pour Vogue, quoique, il devrait s'y intéresser. Au pied des falaises de Sainte-Adresse, Cap de la Hève, endroit très vanté, sublime, avec une promenade qui s'arrête un moment contre la falaise et qu'on appelle le bout du monde. S'il y a des petites choses, il y a ces vieux vins espagnols qui peuvent être... Le café dont il parle est un café... Il a peur qu'il disparaisse parce qu'il se dit, mais... Tout est un peu décadent dans ce café. C'est un café de village, etc. Et bien sûr, mais tout le monde se pose la question. Je veux dire, dans chaque ville de France, en se disant, est-ce que ça va pas être repris par une grande chaîne vestimentaire Les lieux qu'on aime, quand même, on a envie, on espère qu'ils vont rester. Les lieux qu'on appelle, dont on dit qu'ils sont dans leur jus, quoi. Vous voyez, on dit dans le jus parce que c'est... Évidemment, il y a le côté, c'est conservé dans le jus, mais en même temps, quand on dit dans le jus, c'est que, voilà, il y a de la force, il y a de la vigueur, il y a de la vie. Et c'est vrai que César est pas pense que l'Europe est un lieu idéal pour vivre, pour aimer, pour construire une famille. Et il n'a pas envie, je veux dire, il a pas envie de s'agenouiller devant les pays émergents et qu'on lui parle de la Chine et de Dubaï, etc. Il pense qu'il y a quelque chose à faire dans ce continent. Et il est face à une jeune femme qui, elle, veut partir. Et d'ailleurs, si ce César était un peu moins... égoïste, un peu moins campé sur ses certitudes de vieil européen et avait simplement emmené sa bien-aimée voir un peu, même y compris la pauvreté extrême, etc. Parce qu'à un moment, il est très pervers. Dans les Asturies, quand il se rencontre, quand elle lui ouvre quand même les portes de son pays natal. Elle lui montre ce qu'elle aime. Elle lui montre un certain exotisme européen. Les Asturies, c'est une région riche en mythes. Du nord de l'Espagne, où le cidre coule à flot, où il y a énormément de richesses, d'histoire, puisque c'est...
C'est pas très loin d'ici, vous savez, on connaît les
Asturies. Oui, les Asturies. Et la rébellion des mineurs asturiens, les dynamiteros, qui se rebellent contre Franco, et qui, comme ils sont mineurs, qui manient la dynamite, qui ont été... Il y a eu des histoires terribles de massacres, de règlements de comptes dans les Asturies. Elle lui ouvre totalement son cœur, son pays... Et dans les Asturies, il lui raconte quelle a été sa vie, il lui parle du triangle d'or, du souvenir de ce vieil opiomane dans le triangle d'or, du mont Athos, des sources à la frontière de la Libye où Alexandre le Grand s'était rendu, où lui est allé. Et elle espère que ce garçon dont elle tombe quand même amoureux va pouvoir lui ouvrir les portes de ce... Il connaît le monde, c'est génial pour elle, c'est génial, il va l'emmener. Eh bien non, il lui dit, moi l'Europe sera ma volière et mon tombeau. Et il décide pour elle. Et donc on sait d'emblée que ça ne va pas pouvoir continuer comme ça et que si il ne veut pas partir avec elle, elle partira seule. C'est aussi l'histoire d'un homme qui n'a qu'à se repentir de ne pas avoir compris le besoin de liberté de l'autre. Ça arrive dans tous les couples.
Oui, ça arrive dans tous les couples.
Il faut comprendre l'autre. Parfois c'est trop tard.
Est-ce qu'on peut dire un mot, justement, des raisons pour lesquelles, de façon très obstinée, et elle ne comprend pas ça, n'est-ce pas, il refuse, en effet, d'aller découvrir des trésors ailleurs qu'en Europe. Il a été défrisé, douché, je ne sais pas comment on dit, on peut dire, par certaines expériences que son métier l'ont conduit à faire, et notamment il y en a deux... le Liban et la Thaïlande. Or, ce sont des... Je ne reviens pas du tout à l'autofiction.
Non. Non, mais ça, je n'allais pas pouvoir... J'aurais jamais parlé du tsunami ou de ce court enlèvement...
au Liban.
Voilà, court, mais... Même 5 heures, c'est très long. J'aurais... Voilà, là, c'est encore... C'est mon principe de vraiment me... de raconter des choses que j'ai expérimentées. Parce que d'ailleurs, je les raconte mieux quand je les ai expérimentées, mais je n'allais pas inventer quelqu'un qui était allé couvrir le tsunami. Non, en fait, il y a deux... Oui, il y a deux... Dans cette fiction, il y a deux trous par lesquels la réalité et là, l'expérience personnelle vécue par l'auteur s'engouffrent. Mais que je ne partage pas du tout... Moi, je voyage encore. J'adore cette vieille Europe. Je la découvre d'ailleurs, parce que longtemps, en fait, j'ai beaucoup voyagé en fait en dehors de l'Europe, et maintenant, je commence à découvrir que tout près de nous, il y a des choses merveilleuses. D'ailleurs, on n'est pas loin, je crois, de la dune du Pilat, c'est ça ?
Oui, oui.
Et je me souviens d'une campagne de publicité qui était très habile, qui montrait, en fait, c'était l'office de tourisme de la région. En fait, c'était même global, parce que c'était des paysages français. Il y avait la dune du Pilat, et puis il disait Arabie, Maroc, désert, ça. Non, Bordeaux, la dune du Pilat, etc. Et donc, en fait, il y a de très, très belles choses autour de nous. Bon. Sur votre question... Je me suis, non pas amusé, mais je me suis dit que je trouvais intéressant de camper un personnage qui a fait un pacte avec lui-même, qui a décidé vraiment de tourner la page et de considérer qu'il y a non pas des frontières à l'Europe, puisque lui, il dit mais que tout le monde vienne. Je veux dire, pour lui, c'est un summum de culture, l'Europe. Il estime qu'il a raison parce que justement, il a vu ce qu'il y avait ailleurs. Et pour expliquer ça, eh bien, il y a deux traumatismes. Deux traumatismes qui sont deux expériences de l'absurde. L'absurde naturel, c'est-à-dire une vague, pur produit de la nature, qui arrive pour diverses raisons et qui frappe un endroit où il n'y avait jamais eu de vague de telle ampleur, un endroit protégé, un endroit où l'homme occidental se sentait roi, se sentait empereur de la nature, sous les palmiers, etc. Cette vague vient absolument balayer toute vie. Mais bon... ça m'intéressait aussi de décrire. Bon, c'est des souvenirs qui sont assez douloureux pour moi, donc je les ai consignés là, je ne vais pas y revenir, mais la confrontation avec la mort, vraiment. Et puis peut-être aussi la honte, peut-être la seule fois où j'ai eu honte d'être journaliste. J'avais rien fait de mal, hein, mais j'étais relativement. Enfin, j'étais plus jeune qu'aujourd'hui. Et on me dit, bon, bah, tu pars pour Phuket couvrir le tsunami. C'était entre Noël et le jour de l'an. J'avais prévu d'être en famille, etc. Et je me retrouve dans une... En plus, il y a le soleil quand même, ça qui est fou. C'est-à-dire que vous avez des paysages de désolation, mais c'est par endroits. Le soleil est là. Les Thaïlandais faisaient comme si rien ne s'était passé. Certains touristes faisaient comme si rien ne s'était passé. Et puis, il y avait à quelques kilomètres de là des morgues terribles sous des tentes Enjoy Coca-Cola. Et mon métier, c'était non pas de raconter, non pas d'être voyeur, mais de raconter. En plus, il y avait des dons à l'époque. Donc, il fallait vraiment raconter ce qui se passait sur place. Et je m'approche... voilà, et ça, je l'ai raconté tel quel. Hein, je m'approche de ces cadavres. Et là, deux personnes viennent me voir et très prévenant, très gentil, en me disant bon, mais est-ce que vous avez besoin de nous? C'est difficile, on s'occupe de vous. Ça, ils pensaient que je venais reconnaître un proche. D'ailleurs, c'est ce qui arrive à César à l'orée du livre. Et en fait, je leur ai dit non, je suis journaliste et j'ai eu une. Enfin, ça a été terrible de dire ça. Et encore une fois, alors ils étaient psychologues. En fait, ils aidaient en fait les gens à ne pas s'effondrer totalement. Et en même temps, je faisais rien de mal. Et c'était très douloureux. C'était, bon, l'absurde naturel, quoi. Un lieu... et je me souviens de l'hôtel. Notamment, il y avait un hôtel Sofitel, en fait, plus loin, un peu plus loin, 1h30 de Phuket. Et c'était des petites constructions, en fait, à 3 étages. Et les 2 premiers étages étaient totalement mais vitrifiés. Même la nature, en fait, il restait les palmiers, puisque les palmiers se courbent. Mais tout était pulvérisé, comme s'il y avait vraiment eu une explosion nucléaire, quoi. C'était pas... Tout était fragmenté, cassé. Et en fait, le 3e étage, il y avait encore les appartements témoins, avec la petite serviette pliée en forme de signe pour... comme signe de bienvenue aux gens qui allaient. Puis c'est des gens, en plus, c'est des lieux pour les lunes de miel, etc. Donc c'est absolument terrible. Donc ça, c'est l'absurde naturel, quoi. La nature qui, à un moment, frappe, cette nature qu'on a oubliée, qui se rappelle parfois à notre souvenir, dans des circonstances terribles comme ça. Et puis l'autre, c'est l'absurde humain, l'absurde de la guerre, c'est-à-dire que César se fait enlever de façon très ponctuelle, quelques heures, se fait interroger, mais comme il est... Il n'a rien à se reprocher, il est là vraiment accidentellement. Il n'a pas de réponse à donner à un interrogatoire. On lui demande ce qu'il fait là, pourquoi il filme. En gros, est-ce qu'il est un espion, puisqu'il s'agit de vérifier ça. Et ça, dans le livre, ce sont les 2 expériences qui font que César s'est dit assez, quoi. Assez. Maintenant, il est temps de passer à autre chose. Le monde, et il s'amuse assez perversement... Quand passe, lui dit, mais attends, mais on pourrait aller à tel endroit, à lui retrouver à chaque fois les endroits marqués. Ben, non, dans cet endroit-là, il y a eu un attentat en telle année, etc. Et Paz lui répond, très justement, que le terrorisme n'a pas de frontières et qu'il est arrivé que le terrorisme frappe au cœur de notre Europe. Elle est espagnole et le drame de la gare d'Atocha, en fait, était un traumatisme pour eux, comme le Saint-Michel pour nous. Et donc, je voulais aussi, puis ça rejoint aussi votre question, tout se recoupe, hein, de toute façon, un roman est tissé de 1000, c'est un peu comme la tapisserie de Pénélope, ou la tapisserie de Bayeux, mais faire un roman contemporain, c'était aussi de parler de cette peur que je trouve qui est très, très désagréable. Paz se moque un peu de la peur de César, cette peur de... Il n'a pas peur, il n'a qu'une seule peur, il a peur de la perdre, elle, de perdre la femme qu'il aime, mais... Cette ambiance de peur, de crise, de crispation, qui fait que Paz apparaît là comme quand même une sorte de remède à cette peur. Je trouve qu'on est... Voilà, il faut que l'époque un peu change, parce qu'on ne peut pas continuer à vivre dans cette peur paralysante. César est un peu paralysé, un peu... C'est pour ça qu'il a besoin de cette bombe dépoussiérante, oui. Qui passe... Voilà, la bombe dépoussiérante jouant un rôle dans le livre. L'objet qui sert à dépoussiérer les objectifs. Et en fait, un psychiatre de Biarritz, parce que j'étais à Biarritz la semaine dernière,
au bookstore,
et m'a fait remarquer qu'en fait, Paz cherche des bombes dépoussiérantes dans une épicerie. C'est comme ça qu'il se rencontre, enfin que lui la rencontre. Il pense qu'elle l'a vue, elle ne l'a même pas remarqué. Et... En fait, elle bombe dépoussiérante pour objectif. Bombe dépoussiérante, très bien. Le regard de César va se dépoussiérer à nouveau. Mais l'objectif, redéfinir aussi ses objectifs. Donc en fait, de façon lacanienne, il y avait quelque chose. Non, c'est marrant parce que c'est l'idée de... C'est un livre, ça s'appelle Plongée. Pour moi, c'est une élévation. C'est une plongée... Alors Tristan Garcia me faisait remarquer dans une émission que la définition de la grâce pour Simone Veil, la philosophe, la grâce, c'est tomber vers le haut. Et pour moi, cette plongée, c'est une plongée ascensionnelle. C'est un homme qui va redécouvrir qui était cette femme et la remettre sur un piédestal pour que son fils, le fils qui ne l'a pas connu, puisse aimer sa mère, puisse savoir comme elle était attachante, flamboyante, libre. Et pour moi, la plongée de Paz, cette descente, est une élévation, on pourrait la retourner vers la... Et je pense que toute histoire d'amour, c'est ça, même quand une histoire d'amour se finit mal, de toute façon, c'est une élévation, c'est quelque chose qui nous aura rendu meilleur, qui nous aura rendu plus... peut-être plus beau, plus intéressant, plus profond. Voilà, donc l'idée de profondeur n'est pas forcément une descente, quoi.
C'est le triomphe de... Ouais. De la grâce sur la pesanteur, pour reprendre les termes de Simone Veil.
Tout à fait.
Alors, il faut quand même qu'on dise un mot des requins, justement, en matière d'élévation, de grâce. Ouais. Et donc, Paz est une monomaniaque, une grande obsessionnelle, n'est-ce pas ? Et il y a une chose qui l'intéresse dans la vie. Elle s'intéresse quand même à César, bien sûr, et à la photographie, mais bien qu'à partir d'un certain moment, ça cesse de l'intéresser. Mais ce qui ne cesse pas de l'intéresser, ce sont les requins. Ah, ça, c'est quand même... Je me suis demandé, mais où est-il allé chercher ça? Et maintenant, je sais que vous êtes allé chercher ça parce que c'est vous qui êtes passionné par les requins. Alors, bon, il arrive que les gens aiment, je sais pas, les chiens, les chats, ils sont passionnés par les taureaux. C'est très mal vu aujourd'hui, n'est-ce pas? Mais c'était mon cas autrefois. Mais les requins. Disons que les requins ont en effet une image extrêmement dépréciée. Quand on dit que quelqu'un c'est un requin, en général, c'est pas un compliment. Et puis aussi, bon, bien sûr, il y a les dents de la mer. Enfin, ça passe pour un carnassier. Alors, j'ai appris dans le livre que non, les requins n'aimaient pas tellement bouffer les humains.
Ils les goûtent.
Voilà. Ils en prennent un petit bout.
Ils les goûtent. Alors,
le requin. Le requin.
Non, mais l'homme, c'est...
Quand il est au centre du livre, le requin, c'est... il n'est pas... Je peux dire un mot, je ne suis pas sûr, mais quand même, il y a des pages magnifiques. Il y a des pages vraiment magnifiques. Les pages sur les Asturies sont de toute beauté. Les pages vénitiennes sont très amusantes, très... Très drôle aussi. Il y a un côté satirique. Il y a un repas absolument impayable avec le polémiste de service. Et puis, la fin du livre, ça vous serre le cœur. C'est sublime de beauté. C'est sublime de beauté. Justement, cette espèce de danse avec le requin. Mais on va pas raconter le livre, bien entendu. Alors, parlez-nous des requins. Voilà.
Jamais, merci pour ces mots. Ouais. Non, les requins... Sans trop raconter, il y a un moment dans le livre où César voit la femme qu'il aime totalement, attitude très contemporaine encore, plongée devant son écran, ne quittant pas son écran. Et puis dès qu'il arrive, elle ferme ou s'arrange pour qu'il ne voit pas. Bon. Évidemment, il pense à une histoire d'amour, une tromperie, des SMS, etc. Il y a quelques SMS étranges, bon... En fait, il découvre que cette femme, entièrement civilisée, photographiant les plages, toutes ces générations, la vie des plages, il se trompe d'ailleurs sur elle totalement là-dessus.
Ça commence pas comme ça, par un malentendu.
Voilà, un quiproquo amoureux, artistique. Il découvre qu'elle se passionne pour les requins et pour les embryons de requins au moment où elle est enceinte. Chose très, évidemment, traumatisante pour le futur jeune père de famille qui comprend qu'elle est partie dans un autre monde. Le requin, c'est pour moi l'un des animaux les plus beaux que j'ai pu rencontrer. À 35 mètres de fond, voire passer 300, je ne les ai pas comptés, mais... Je plongeais avec une instructrice, on était très 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 profond, et elle me dit qu'il y avait à peu près 300 requins à marteau passant comme ça dans le bleu, avec cette forme à la fois monstrueuse et très belle, cette tête de marteau. Bon, le requin étant un animal qui n'a, comme je le disais, qui n'a pas évolué en fait depuis les temps archi-préhistoriques, depuis 450 millions d'années, animal fascinant car capable de très... sensuel, sensitif, capable de déceler une goutte de sang dans des millions de litres d'eau, capable d'entendre les battements, les champs électriques d'un battement cardiaque, d'un battement de cœur, enfin de plusieurs battements de cœur à plusieurs kilomètres. Et évidemment, mal perçu à cause des 10 accidents mortels par an produits par le requin. Mal perçu depuis très très longtemps, puisque le mot requiem, requin en fait aurait été forgé sur le mot requiem par des marins, puisque quand vous étiez à la mer et que vous voyiez un requin, il n'y avait plus qu'à chanter le requiem, car évidemment vous alliez mourir. Et puis vous parliez de Spielberg, avant il y a eu Lautréamont, dans les champs de Maldoror, avec un moment sublime où d'ailleurs le Maldoror s'accouple à une femelle requin, monstrueuse, qu'il trouve très très belle, donc objet à la fois de fascination, de répulsion, animal totémique de la peur, panique, et en même temps incarnant pour Passe la beauté suprême, une forme vraiment silencieuse, etc. Vraiment. Et puis le seigneur des mers, quoi, le prédateur total. Et je voulais que le requin soit comme ça, le totem de ce livre. qui passe et quelqu'un qui peu à peu s'éloigne du monde des hommes, du monde comment dire, compliqué, malveillant des hommes, surtout dans le milieu artistique, c'est-à-dire ces gens qui veulent mettre des étiquettes sur son travail en permanence, qui veulent lui dire qui elle est. Elle, elle sait qui elle est. Et elle s'éloigne peu à peu des hommes. Elle est attirée par l'animalité. Et je voulais que dans ce roman, on ait à la fois l'extrême civilisation avec l'art, les statues, etc., les musées, et puis la tentation pour la, ce qui est le plus sensuel, le plus proche possible, le plus animal possible. Et donc le requin, c'est pas du tout pour... Alors après, je déplore évidemment les attaques de requins. Je rappelle juste qu'il y a 10 morts en fait, par an, hein, 10 attaques mortelles de requins. Les éléphants tuent 100, enfin 10 fois plus. Les moustiques, n'en parlons pas. Et qu'à rebours de ça, l'homme détruit 100 millions. C'est 100 millions. Je ne rajoute pas de zéro. 100 millions de requins par an. 10 contre 100 millions. Ça m'a beaucoup frappé d'entendre le député maire de La Réunion à l'Assemblée nationale la semaine dernière, demandait à l'État de régler le problème requin, des requins qui attaquent dans des zones qui ne sont pas des zones protégées, ne sont pas des réserves naturelles. Donc ils sont dans des univers sauvages, ils sont leur territoire sauvage. D'entendre ce monsieur dire il faut autoriser les prélèvements de requins, prélever, mais on ne les remet pas en liberté après, parce que prélever, c'est les prendre, leur ouvrir le ventre pour regarder s'il y a eu des restes humains, pour trouver le coupable. On était dans l'aberration aussi contemporaine du principe de précaution et du... L'homme veut régenter tout, absolument tout. Quand il n'y aura plus rien, je ne sais plus qui pourra régenter. Mais donc il y avait aussi cette idée d'une femme qui se réapproprie les territoires, qui se réapproprie parce qu'elle s'y fond, elle ne veut pas du tout le dominer, mais elle veut connaître le vertige de faire partie de ce monde naturel, de cette grande harmonie. Et le requin, et là c'est l'expérience personnelle, le requin souvent ne s'intéresse pas à vous, il peut être curieux, etc. Mais c'est vraiment accidentel, il y a des accidents qui sont déplorables, mais c'est accidentel. Et il y a dans ce livre, oui, ça aurait pu être... D'ailleurs, dans Birman, il y avait la femme tigre,
oui.
On parlait aussi. L'élément de sauvagerie, de nature. Il y a, je ne sais pas, ce besoin de nature, ce besoin de se laver de tout, ce besoin lustral que donne l'eau, ce besoin de quitter la civilisation pour arriver presque à une forme... chez le requin, il y a aussi chez l'eau, dans les plongées de Paz, il y a le rappel aussi du monde utérin, du monde d'avant, du monde d'avant l'homme. Il y a ça. Et je voulais, et puis comme c'est un livre sur la quête de la beauté aussi, mais je voulais rendre hommage à cette forme de beauté qui est une forme sauvage. Il ne faut jamais oublier que le requin est un animal sauvage. Et donc ce requin, comme totem, après il était aussi, je me moque aussi un peu de ces écologistes radicaux, certains
oui.
sont là. Mais je ne vais pas trop raconter, puisqu'il y a
non,
aussi un... Mais pas, je pense
Mais
que son rapport au requin est un rapport assez sain au fond de... Je pense d'ailleurs que Paz serait revenue, en fait. elle allait revenir, mais... C'est aller au-delà d'un autre monde, il y a aussi ça dans la plongée sous-marine, dans la... Il y a le rapport à l'oxygène qui est très fort symboliquement. Dans la plongée sous-marine, il y a énormément de données symboliques. Ce n'est pas juste aller voir les animaux et la beauté du corail. Il y a ça, évidemment. Mais l'idée de sauver son oxygène, de faire attention, de calmer le rythme, de s'apaiser. Il y a un aspect... Moi, j'ai retrouvé dans la plongée sous-marine ce que j'ai retrouvé chez les moines du Mont Athos et qui se trouve dans le bouddhisme, ce qu'ils appellent la prière du cœur. En fait, dans les religions asiatiques... Et du coup, dans l'orthodoxie, puisque c'est la forme orientale du christianisme, les moines, au fond, quand ils travaillent dans les monastères, quand ils épluchent les légumes pour la communauté, prient sans arrêt, puisqu'en fait, cette prière se confond à la respiration. Et c'est plus du tout une prière qui est verbale, c'est une prière respiratoire, cardiaque, qui vraiment fait appel à tout le corps. Il y a ça dans la plongée sous-marine, ce côté, voilà, vous vous réappropriez votre respiration, l'oxygène est précieux, vous descendez, vous approfondissez peu à peu les choses aussi, vous descendez en vous, et vous avez cette rencontre avec des animaux stupéfiants, dont le requin, qui, et là, vous êtes juste spectateur d'une forme de beauté et de primitivisme qui vous dépasse, quoi. Et vous regardez, vous écoutez. Donc il y a ça, ce rapport au requin, c'est ça, c'est aussi simple que ça. C'est retrouver l'étonnement, l'émerveillement, la sérénité, le calme, la profondeur.
Je voudrais, avant de donner la parole au public, vous poser des questions. Que vous me parliez, c'est ce que vous venez de dire du requin qui m'y fait penser. Et c'est que nous n'avons pas évoqué une œuvre d'art qui a un rôle important, mais il y en a d'autres, qui est Boy with Frog.
Ah oui, j'adore.
Voilà. Qui est une statue d'un artiste qui s'appelle comment
Il s'appelle Charles Ray, ouais, qui est américain.
Charles Ray, qui a été installé. Je sais qu'elle est partie.
Elle a été désinstallée, c'est bien dommage.
Elle a été installée à Venise. Devant la Dogana di Mare et devant la douane de mer, à l'extrémité. Alors, c'est magnifique quand on arrive à Venise, il y a ça, il y a le grand canal à droite, la Giudecca à gauche, et puis il y a la douane de mer. Et il y avait cet enfant, enfant avec une grenouille, ou un crapaud.
Ouais, c'est vrai.
Et là, dans la statue, il y a tout ce que vous avez dit, c'est-à-dire qu'il y a la beauté lustrale, qui est celle de l'eau, du marbre, il y a l'œuvre d'art. Il y a l'animal, qui est un petit batracien, qui n'est pas aussi éclatant de beauté que le requin, mais ni inquiétant non plus. Dites-moi un mot de cette statue qui joue un rôle. Et puis il y a le fils, surtout. C'est au moment où il la voit, au moment où il attend un enfant.
Vous savez, tout à l'heure, vous avez parlé de ce dîner où il y a un polémiste.
Oui.
Je déteste les polémistes parce que ça me consterne. Vous avez deux types qui, un pour, un contre. Puis à la fin du débat, si vous étiez pour, vous restez pour. Si vous étiez contre, vous restez contre. Et cette époque voudrait nous obliger à raisonner en termes binaires, quoi. Alors, soit on est jeune, soit on est vieux. Soit on aime l'art ancien, soit on aime l'art classique. Soit on aime être touriste sur des plages, soit on est un snob qui veut... Je veux dire, le Boy with Frog, ou toutes ses œuvres, La femme piquée par un serpent, vous montre, c'est ce qu'on disait à l'orée, quand on parlait des maîtres, à l'orée de cette discussion, qu'on est le produit d'une histoire, qu'il y a une continuité, que les choses ne sont pas clivées, que ce n'est pas forcément blanc ou noir, que les nuances existent, que le temps existe. Le Boy with Frog, c'est une statue très contemporaine, elle date de 2004-2005, mais elle est... Vous pourriez voir un Donatello, quoi. On est aussi dans la Renaissance. C'est un petit garçon de 2 mètres. Alors, il est petit garçon, il n'est pas à taille humaine. Il fait 2 mètres 50 de haut. Il est nu. Il a ce petit ventre bombé des enfants et cette petite cambrure. Et il tient donc cette grenouille, comme vous l'avez dit, en la regard, comme s'il l'avait pêchée ou saisie, attrapée dans le canal. Il la regarde avec un œil à la fois... à la fois émerveillé et cruel, comme les petits garçons, quand ils sont en présence justement du monde animal. Il y a parfois, ils peuvent même faire du mal à certains animaux, sans cruauté vraiment, mais parce qu'ils essaient de mesurer, c'est un peu une mesure des potentialités de la vie et ce qu'ils peuvent faire de ces créatures, de cette étrangeté, etc. Et c'est des moments d'initiation très forts, et c'est dans le livre... Le spectacle, plus que spectacle, l'entrée en sympathie, en résonance avec cette œuvre qui donne envie à César d'avoir un enfant avec Paz. C'est un homme qui fait un enfant à une femme. Je déteste cette expression, elle m'a fait un enfant dans le dos, qu'on entend parfois, comme si les femmes faisaient des enfants pour retenir les hommes. Là, c'est César qui, pour retenir Paz, lui fait un enfant. Et il y a la baleine. Et d'ailleurs, c'est dans le... Voilà,
sure, la
baleine.
C'est la même
œuvre.
Thématique.
Il y a dans toutes ses œuvres, et c'est pour ça que c'est pas gratuit, je veux dire, c'est pas... Dans toutes ses œuvres, à la fois, elle joue un rôle dans la fiction, mais c'est vrai qu'on pourrait tisser un chemin entre toutes les œuvres dont je parle. L'élément aquatique, y est toujours. L'élément utérin, la transmission, l'histoire, l'héritage est toujours présent. Et la beauté, évidemment. Et ce Boy with Frog, voilà, encore un exemple œuvre contemporaine, mais qui fait référence au passé, qui n'est pas une parodie, qui n'est pas du tout un décalque, mais qui est le produit, voilà, qui s'inscrit dans une continuité. Et c'est vrai que vous pouvez aller voir les Donatello à côté. Il y a toujours, au fond, cette éternité de l'art, comme cette éternité de l'animal requin, j'espère. Mais le paradoxe, c'est que voilà, on fait des musées pour nos œuvres d'art et on exige de l'État qu'il aille pêcher des animaux sauvages coupables.
Oui, mais il y a quand même un point commun, c'est que n'oublions pas que César et Passe veulent écrire le livre de ce qui va disparaître. Que évidemment les écologistes, bon, de manière dont on peut sourire, mais enfin, s'inquiètent sur l'avenir pour ce qui est de l'avenir du requin, des espèces menacées, et que ça vous n'avez pas pu, parce que ça s'est passé sans doute quand le livre était écrit, mais The Boy with Frog, il a disparu.
C'est vrai.
Et on a commencé par l'enfermer.
C'est vrai.
Dans une cage en verre.
C'est vrai.
Et puis finalement,
Le faire garder par deux policiers,
ça c'est dans le livre. Ouais. Et puis finalement, les Vénitiens n'ont pas aimé cette statue et on a remis le lampadaire qui était là auparavant.
Oui,
Réverbère. Il doit entrer dans le livre de ce qui va disparaître.
Il y est. Voilà. C'est le livre de ce qui va disparaître. Ouais. Et de ce qui va rester. Parce que l'un des pouvoirs aussi du livre, c'est de, par rapport à un article de journal, c'est que ça reste un peu plus longtemps et surtout, comme ça vous fait peut-être, comme quand on a aimé des personnages, pour moi, Julien Sorel, c'est plus un personnage, c'est quelqu'un auquel je pense, D'Artagnan, Julien Sorel, certaines héroïnes aussi.
Vous pensez qu'elle allait revenir
Oui, je pense. Mais j'en sais rien, puisqu'elle n'a pas pu le dire.
Une petite question. Sur le jeu entre le... Je sais, vraiment un peu technique, c'est pas très intéressant peut-être. Et sur le jeu entre les caractères romains et l'italique, je me suis demandé à quoi ça correspondait exactement. C'est quand c'est le dialogue intérieur
Je crois qu'il peut pas, puisque c'est un texte qu'il destine
à son enfant.
Je crois qu'il y a des choses on peut pas tout dire. On peut pas tout dire à son enfant sur l'histoire d'amour dont il est le produit, quand cette histoire d'amour a été violente. Donc ce sont des passages qui seront que César a prévu de biffer. Qu'il signale par un italique quand il a des choses, lui, à se dire, puisqu'il fait le bilan de cette histoire, à se dire qu'il a besoin de coucher sur le papier, mais qui ne sont pas destinés à être lus par son enfant. Il y a deux, trois passages comme ça qui sont les... Oui. Parce que je pense sincèrement qu'on ne peut pas... Il dit déjà beaucoup de choses quand il lui dit qu'un couple, c'est la guerre, qu'il a aimé sa mère, mais qu'il l'a détestée aussi, qu'il l'a détestée par instant.
Il faut dire qu'il y a des moments où elle est pénible. Hein.
Vous savez qu'on me dit le contraire. Alors on me dit ça, je l'entends beaucoup. Et puis notamment des lycéennes dans très belle émission de Michel Field, en fait, qui la seule émission d'ailleurs de réelle transmission, où il y a des lycéens alors qui posent des questions de lycéens qui sont parfois très, mais j'aime bien parce que ça vient vraiment du cœur, qui disaient mais quand même passe, elle est quand même méchante parce que elle a quand même un homme qui l'aime. On sentait, c'est une jeune fille de 16 ans qui lui raconte plein de choses, qui la protège, le besoin de protection aussi chez les jeunes filles d'aujourd'hui, peut-être d'hier, j'en sais rien. Mais voilà, et en fait, elle part, en plus, elle va avoir un enfant, etc. Donc vous voyez, voilà, il y a les deux pôles, c'est bien.
C'est un personnage complexe, c'est pour ça qu'elle est... Qu'elle est intéressante. Elle est belle, en tout cas. Elle est très belle.
Pas mal.
Bien. Mais c'est un
roman. Elle est pas mal, mais oui. Mais enfin, une femme qui ne soit pas à la merci
des
hommes.
Tout est dans leur rencontre, n'est-ce pas? Alors, ça, on peut le dire, c'est au début du livre. Elle fait une exposition de peinture selon un truc... habituel, paraît-il, chez les journalistes, comme il la trouve très jolie, qu'il a envie de la rencontrer, il fait un article sur l'exposition. Alors d'accord, en effet, ça lui permet de la rencontrer.
Il aime aussi son travail.
Il aime aussi son travail, mettons. Bon. Et
oui, mais
ça permet de la rencontrer. Elle lui dit, c'était nul, vous n'avez rien compris. C'est exactement le contraire de ce que j'ai voulu faire.
Oui, ce qui est terrible, c'est son premier papier et toute sa vie. Elle lui dit, mais maintenant, on va mettre, comme les journalistes sont moutonniers, on va dire la même chose et c'est le contraire de ce que j'ai voulu faire. Et ça, c'est terrible. C'est encore tous ces gens qui vous mettent des étiquettes. Voilà. Mais lui, il a quand même, comme on peut le pardonner, parce qu'il est sincère, il aime vraiment, il se trompe totalement.
Il s'est complètement trompé
sur ce qu'il a fait, mais il est sincère dans son
égarement. Il s'est fié au titre d'une photo qui s'appelait Le Paradis, le Bonheur de vivre, ou le je ne sais quoi, et alors que c'est, à ses yeux, l'univers qu'elle photographie est totalement sombre et complètement déshumanisé, même s'il y a des présents.
Elle aime, oui, ce sont des plages comme ces plages du Sud. Peut-être ici aussi, d'ailleurs, où il y a toutes les générations. Et on voit, elle travaille en fait, travaille très précisément, et puis elle va progressivement travailler la chambre. La chambre, c'est génial. Parce que,
oui.
Voilà, d'ailleurs, prend une technique du passé. Oui. Mais pour faire comprendre quelque chose de très contemporain, c'est que dans les musées, en fait, les gens regardent les œuvres, mais parfois se regardent entre eux. Il y a des rencontres, en fait, dans les musées amoureuses. Elle s'amuse. En fait, dans les photographies de Paz, on voit, par exemple, une dame assez âgée qui regarde un jeune homme et on se dit qu'elle est très émue et que ce jeune homme doit lui rappeler peut-être un amour de jeunesse. Et sur les plages, on voit tous les détails aussi, puisqu'après, elle va. Bon, enfin, je vais pas. Voilà, elle travaille aussi sur les musées. Mais au départ, sur ces plages, on voit donc les adolescents qui regardent les filles ou les autres adolescents, le petit garçon qui court avec sa glace, la glace qui tombe, qui se fait gronder par son père, les cheminées quand il y a des usines, en fait, comme on voit en Italie du Sud, il y a les usines et puis il y a la plage à côté, ou alors les petites criques toutes petites où les gens s'entassent sous le soleil. Et lui, César, il y voit une célébration de la vie, il y voit mais sincèrement, parce que lui, il aime ça, toutes ces générations qui communiquent entre elles, cette éternité du plaisir aquatique, de l'eau, Et il écrit ça, il écrit selon son cœur, selon sa perception, mais c'est ce qui est bien aussi. D'ailleurs, on peut s'en féliciter, au fond, que ce soit un livre, un film, etc., ça vous arrive peut-être de vous engueuler avec la personne avec qui vous avez vu un film, qui a aimé telle chose ou pas, vous avez compris autre chose, et ces débats autour... Et c'est bien, chacun se réapproprie, au fond, le travail de l'autre, mais elle, c'est terrible, elle a voulu dire le contraire.
Moi, je pense quand même que je reste persuadé, n'en déplaise aux lycéens que vous avez rencontrés, que c'est une femme absolument fascinante, mais que c'est une emmerdeuse de première. Parce que quand même, n'est-ce pas, il fait cet article. Bon, il n'a rien compris, il se fait engueuler. Mais cet article va lui valoir la notoriété.
Bah,
et après, elle va aller d'exposition en exposition.
Mais elle est pure, elle est pure, même, vous n'avez pas vu.
Elle finit même par exposer au Louvre, s'il vous plaît, au Louvre. Eh bien, jusqu'à la fin, elle lui reprochera cet article. Oui, tu n'as rien compris au début.
Mais voilà, parce que ça ne compte pas. Elle a compris que c'est l'écume médiatique.
Les bulles de savon.
Bulles de savon. Tout à fait.
Bon, c'est un beau livre. Hein. Ce ne sont pas des bulles de savon. C'est un très beau livre. Vraiment, je vous en recommande vivement la lecture. Merci beaucoup.
Merci à vous et merci pour cette votre lecture, et c'était plaisant.